Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Adèle Ziane, sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, conseiller municipal de Saint-Ouen et conseiller territorial de pleine commune. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors, le président Macron a tenu une réunion d'urgence il y a quelques jours sur la lutte contre le trafic de drogue. Après l'assassinat d'un jeune de 20 ans, Mehdi Kessassi, la loi narcotrafic prévoit un parquet spécialement dédié. Que vous inspire le drame de Marseille et quelle doit être la réponse de l'État face à ces trafiquants ?
Tout d'abord, je souhaitais exprimer mon émotion et puis tout mon soutien à la famille Kessassi, à Mehdi Kessassi, pour lequel nous avons rendu un hommage au Sénat en question au gouvernement. Et son frère, Amine Kessassi, est une personnalité qui s'implique, qui se bat et qui fait preuve d'une très grande dignité, on a pu l'entendre tout récemment, en appelant aussi à une prise de conscience, non seulement au niveau local, mais au niveau national. Et effectivement, ce combat contre le narcotrafic, aujourd'hui en France, cela doit devenir une priorité nationale. D'abord parce que on voit bien que ces différentes pérénigrations, son implantation sur le territoire ne touche plus seulement ce qu'on appelle et ce qu'on aime à dire auparavant dans les quartiers populaires. On voit qu'aujourd'hui, c'est aussi le monde rural, les campagnes qui sont impactées. Ce trafic, ce narcotrafic prend des formes nouvelles. Il est en train de se irriguer le territoire de manière forte, de manière violente. Et effectivement, dans cette situation, cet assassinat de ce jeune garçon, c'est une étape supplémentaire qui a été franchie. Ça m'inspire vraiment un message aussi de prise de conscience nationale. Et au Sénat, nous avions porté il y a quelques mois une loi sur le narcotrafic qui doit justement aller plus loin d'une certaine manière que simplement l'action répressive, parce que c'est une loi narcotrafic qui apportait des nouveaux outils indispensables sur les techniques de renseignement, sur les moyens d'investigation, sur la question du gel des avoirs des trafiquants. Toutes ces questions-là, elles ont été portées dans cette première loi narcotrafic. Et là, on veut aller encore plus loin, c'est de pouvoir avoir un acte 2 de la loi narcotrafic qui permettra d'être une loi qui portera plutôt sur la question de la prévention. Parce qu'évidemment, il y a toute la dimension répression, enquête, moyen de pression sur les narcotrafiquants. Mais nous, pour notre société, pour notre jeunesse, pour toutes les personnes qui sont sous la coupe de ces narcotrafiquants, il y a un volet prévention qui est déterminant et que nous souhaitons mettre en œuvre prochainement.
Adèle Ziane, vous êtes sénateur, mais aussi élue à Saint-Ouen, qui a longtemps été confrontée à ces trafics. Je ne sais pas si ça a été régulé. Est-ce qu'il y a des réponses locales et pas seulement nationales pour lutter contre ce fléau ?
Tout à fait. Moi, j'ai été élu et je suis toujours élu à Saint-Ouen, Saint-Ouen-sur-Seine. Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons été élus en 2020. Et une des priorités qui avait été portée par le maire et qui est toujours une priorité aujourd'hui, c'était la lutte contre les points de deal et le trafic de drogue qui nuisait et rendait impossible la vie des habitants au quotidien. Et lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons mis en place une stratégie qui consistait d'abord à bien sûr s'appuyer sur les moyens de la police nationale, mais un gros et un important travail de coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la lutte contre les trafics de drogue. Donc c'est un travail qui était porté par le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, et qui continue aujourd'hui, qui permet de coordonner et à la fois la police nationale, la police municipale, et autour de ça, le travail fait par la justice, le procureur, mais également les intervenants en milieu scolaire, en milieu éducatif, pour permettre justement petit à petit d'éteindre et de fermer les points de deal à Saint-Ouen. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 7 points de deal actifs à Saint-Ouen. Il faut le dire très clairement, aujourd'hui, il en reste un et demi environ, un qui périclite, un dernier que nous sommes en train de poursuivre en termes d'extinction d'activité. Et ça vient aussi, vous me demandiez des solutions et des recettes locales. Nous avons entamé à chaque fois, sur chacun de ces points de deal, de grosses opérations, d'importantes opérations d'aménagement de l'espace public. C'est-à-dire de réaménager les trottoirs, les rues, de travailler sur les aspects lumière, l'installation de la vidéosurveillance qui permet cette vidéosurveillance de mener des enquêtes à bien pour faire tomber les points de trafic. Oui, les solutions, elles sont à la fois nationales, mais elles viennent aussi de la volonté, de la force et du dynamisme des maires à résoudre ces problématiques.
Adèle Ziane, avec 8 autres parlementaires, vous alertez le Premier ministre sur la chute drastique du budget consacré à la jeunesse et à la vie associative. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qui baisse et quelles seront les conséquences pour votre département, la Seine-Saint-Denis ?
Tout à fait, nous sommes en pleine élaboration et discussion autour du projet de loi de finances de la sécurité sociale et également du projet de loi de finances du budget de la France pour 2026. Et nous avons écrit avec plusieurs parlementaires à l'initiative de ma collègue Florence Herouin-Liotet au Premier ministre parce que nous sommes très inquiets des baisses du budget consacré à la jeunesse et à la vie associative. Ça s'exprime de plusieurs manières. D'abord, c'est des baisses, on va dire, sectorielles avec des conséquences lourdes, des suppressions de postes, des fermetures d'activités, des difficultés pour l'accès aux loisirs et à l'éducation populaire pour notre jeunesse, à l'engagement pour des milieux d'enfants et de jeunes. Et nous sommes inquiets que ces baisses viennent, en écho aussi avec ces questions de prévention que nous avons à cœur de défendre, que ces baisses de budget viennent justement alimenter les fractures sociales qui sont déjà béantes dans notre pays. Et ça, c'est un sujet aussi sur lequel nous voulons apporter notre plus grand soutien aux associations, parce qu'elles sont vraiment ce lien vivant dans notre République et pour bon nombre de nos concitoyens. Et très concrètement, en Seine-Saint-Denis, je vous donne deux exemples concrets de dispositifs qui seraient impactés par ces baisses de budget, le service civique et le soutien au départ en vacances. Le service civique, c'est vraiment un mécanisme qui est né d'un accord républicain en 2010, qui a été co-construit avec les associations et qui permet à des dizaines de milliers de jeunes dans notre pays de s'engager, de reconstruire parfois leur trajectoire, leur parcours. Et c'est un vrai outil de politique, de confiance envers la jeunesse. Et c'est un investissement à l'avenir dans la cohésion sociale et nationale. Et là, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une baisse importante qui va être portée et ça aura un impact sur les 135 000 missions qui sont l'objectif chaque année qui est porté. Un autre dispositif qui est touché, c'est les colos apprenantes, qui sont vraiment pour nous, si elles devaient être réduites ou qui devaient disparaître, ce serait un vrai contresens social. Ce sont 5 millions d'enfants qui ne partent plus en vacances chaque année, alors qu'il était possible dans les années 80 de partir en colonie de vacances. Et les colos apprenantes, c'est vraiment un espace de respiration où on fait vivre la mixité sociale, un outil d'émancipation. Et nous souhaitons qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 37 millions d'euros qui sont impactés, nous voulons les préserver. Nous voulons cette somme se préserver pour permettre à ces colos apprenantes de continuer à exister.
Alors Sébastien Lecornu envisage de créer une allocation sociale unique. Cette annonce a lieu alors que votre groupe au Sénat a déposé une proposition de loi pour lutter contre le non-recours aux aides sociales. Est-ce que cette allocation sociale unique vous paraît nécessaire aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors, on voit que le Premier ministre a fait cette proposition tout récemment. Encore faut-il bien comprendre les contours, le périmètre, qu'est-ce qu'il entend par allocation sociale unique ? Est-ce que c'est une vieille idée qui est sortie il y a quelques années de regrouper l'ensemble des allocations qui existent aujourd'hui en une allocation unique ? Ça peut se discuter. Nous, ce qui constitue un point important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une allocation sociale au rabais. Est-ce que ces allocations rassemblées viendraient ensuite faire un nivellement par le bas financièrement pour les allocataires et avoir un impact fort et négatif sur les ressources des Français qui sont aujourd'hui en difficulté ? Mais moi, ce que j'aimerais entendre de la part du Premier ministre, c'est une réponse à toutes les alertes qui ont été faites par les collectivités territoriales au cours des dernières semaines. Je pense aux départements de France qui ont tenu leur journée nationale et qui ont alerté sur la crise financière. Je parle justement des départements parce qu'aujourd'hui, les départements sont justement ces collectivités territoriales qui soutiennent et viennent en aide aux personnes les plus en difficulté à travers le RSA, les allocations à destination des personnes âgées, l'action territoriale départementale à destination des personnes en situation de handicap. Et qu'est-ce que nous disent les départements dans l'élaboration du budget tel qu'il est proposé aujourd'hui par le Premier ministre ? Elles alertent sur cette crise financière. Juste pour vous donner un chiffre, en 2024, 14 départements expliquaient qu'elles étaient en situation financière critique. Cette année, c'est 50 à 60 départements sur une centaine environ qui pourraient être en difficulté, peut-être même en cessation de paiement. Et c'est François Sauvadet aussi qui l'évoquait il y a quelques jours, c'est 6 milliards d'euros de dépenses en plus imposées par l'État et 8,5 milliards de pertes de recettes de dernières années. Donc on se retrouve avec un effet ciseau qui est catastrophique pour les départements et ces dépenses sociales. On parle de cette allocation sociale unique, donc c'est pour ça que le Premier ministre propose cela, mais est-ce que cela répond justement à l'urgence du moment ? On a des dépenses sociales qui explosent avec 11 milliards de plus pour tout ce qui touche à l'allocation pour les enfants en situation d'isolement, et en parallèle, les départements sont amenés à réduire leurs investissements. Donc, sur cette question qui a été évoquée par le Premier ministre, moi je pense que déjà, la réponse attendue dans le domaine social, c'est vraiment une réponse au département par rapport à la situation économique et financière brutale et difficile dans laquelle ils sont aujourd'hui avec ce budget 2026.
Adèle Ziane, le ministre du Logement veut expulser les délinquants du parc social et donner la possibilité aux Français de racheter leur propre HLM. Que pensez-vous de ces propositions ? Est-ce que ça peut être une réponse à la crise du logement ?
Moi, je pense que ces deux propositions sont totalement à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que la crise du logement, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle démarre en 2017 avec les différents gouvernements successifs sous la présidence d'Emmanuel Macron. Une non-priorité donnée au logement en France et encore moins au logement social. Quand le ministre du logement explique qu'il faut permettre aux Françaises et aux Français de racheter leur logement social, ça existe déjà aujourd'hui. Il y a en France de nombreuses opérations qui permettent, dans des opérations de logement HLM qui ont plusieurs années, de permettre à des locataires de racheter leur logement social et de devenir propriétaires en échange d'un calcul qui est fait en fonction du nombre de loyers, d'années de loyers qu'ils ont pu payer. Donc, en fait, c'est pas une nouvelle idée, c'est quelque chose qui existe déjà. Proposer que les délinquants soient expulsés, ce sont des dispositifs qui existent déjà en fonction des plaintes, des nuisances qui peuvent être posées. Est-ce que ces deux propositions vont réduire et répondre à la crise du logement en France ? Absolument pas. La difficulté et la politique qui a été portée par ce gouvernement, ces différents gouvernements successifs depuis de nombreuses années, c'est que le logement n'est pas une priorité pour le gouvernement. La crise du logement, elle sera traitée et on pourra y répondre quand on pourra construire plus de logements en Ile-de-France en particulier, mais plus de logements sociaux. Et moi, j'en suis témoin, j'ai été élu et je suis toujours élu dans ma ville à Saint-Ouen. En tant qu'élu en charge de l'aménagement et de l'urbanisme à l'époque, nous avons réussi à sortir, produire à peu près 700 logements sociaux sur la durée du mandat, mais sans aide de l'État. C'est-à-dire que l'État n'est plus aujourd'hui au rendez-vous en matière de construction de logements. Et j'en veux pour preuve, il y a à peu près un an, encore un dernier exemple, le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, avait souhaité intégrer les logements locatifs intermédiaires dans la loi SRU. Mais c'était un tour de passe-passe pour permettre aux villes qui ne répondent pas aux minima qu'ils doivent avoir de logements sociaux dans leur ville, qui est de 25 à 30%, de faire passer justement la pilule à un certain nombre de maires qui n'ont pas envie de construire des logements sociaux. Donc les deux propositions faites par le ministre du Logement aujourd'hui, elles ne répondent pas à cette crise du logement. Et pourtant, des propositions existent. J'en veux pour preuve également à nouveau l'année dernière, la Fondation Abbé Pierre qui avait fait des propositions et qui avait été soumise au ministre du Logement de l'époque, Christophe Béchu, avec des pistes de solutions l'accession à la propriété, sur le soutien financier que l'État doit pouvoir apporter aux communes, afin justement de relancer cette production de logements sociaux qui est totalement en chute libre. Par exemple, entre 2023 et 2024, ce nombre de logements sociaux a été divisé par deux. Voilà, sans soutien financier de l'État, sans objectif de construction, et c'est ce qu'on attend de la part du ministre du Logement, on ne pourra pas répondre à cette crise du logement en France.
Dernière question, très rapidement, l'élection présidentielle c'est dans 18 mois. Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle. Est-ce que c'est votre souhait également ?
Moi, ma famille politique, c'est la famille du Parti Socialiste. Et au sein du Parti Socialiste, il y a plusieurs tendances. Il y a les socialistes, il y a les sociolibéraux parfois, il y a les sociodémocrates. Moi, ma famille, c'est la social-démocratie. Donc, c'est vraiment un parti, un courant de pensée qui pense qu'on peut réformer l'État en allant chercher du consensus, des discussions, en faisant travailler l'ensemble des corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, la société civile, les institutions, le Parlement. Moi, je souhaite, dans la période dans laquelle nous avons eu un président de la République qui avait une vision très verticale du pouvoir dans notre pays, oui, je souhaite qu'il y ait un candidat social-démocrate qui réponde à ce que je viens de vous dire, cette capacité à créer du consensus, à s'appuyer sur les forces vives de notre pays, les syndicats en particulier qui ont été, j'ai envie de dire, très maltraités au cours des 8 dernières années dans justement la construction du dialogue social dans notre pays.
Merci Adèle Ziane. Je rappelle que vous êtes sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, conseiller municipal de Saint-Ouen et conseiller territorial de Pleine Commune.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.